Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
On commence avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Inquiétude au nord de Sydney. Les services de lutte contre le feu déclarent un incendie comme un méga-feu alors que plusieurs foyers se sont regroupés. Tout cela à une heure de route de Sydney. Nous irons voir. En France, la mobilisation qui continue contre la réforme du système de retraite. Et en Algérie, dernier vendredi de manifestation avant l'élection présidentielle de jeudi. Et on débute donc ce journal avec les incendies en Australie, au nord de Sydney. On dénombre plus de 100 foyers en Nouvelle-Galles du Sud et au Queensland. Plusieurs feux se sont rassemblés pour former ce que les services appellent un méga-feu. C'est à Gosper Mountain, près de la périphérie de Sydney. Le point sur la situation avec Heike Schmidt.
Sydney étouffe alors que l'État brûle, titre le quotidien Sydney Morning Herald ce vendredi. Depuis plusieurs jours déjà, les gratte-ciel de la ville sont enveloppés dans un nuage jaunâtre et toxique. Au nord de la capitale de la Nouvelle-Galles du Sud, les pompiers se disent impuissants face aux murs de flammes auxquels ils font face. Même si, entre-temps, des renforts sont arrivés des États-Unis et du Canada. Plusieurs incendies de forêt ont fusionné pour ne former qu'un seul gigantesque brasier. Ce méga-feu brûle sur 300 000 hectares sur 60 km de longueur. La seule option qui reste, évacuer les habitants avant qu'ils ne se fassent piéger par les flammes. Depuis trois mois maintenant, des vents violents, la canicule et une végétation desséchée attisent les flammes à travers plusieurs régions d'Australie. Les chercheurs estiment que le réchauffement climatique contribue à créer des conditions encore plus propices au feu. Si cette année on déplore moins de victimes, jamais d'aussi grandes zones n'ont été dévastées. 2 millions d'hectares sont déjà partis en fumée, soit l'équivalent de la Suisse.
Voilà, donc Heike Schmidt pour RFI. En France maintenant, la mobilisation qui continue dans la rue contre la réforme du système de retraite, un mouvement particulièrement bien suivi, surtout dans les transports. On ne voit d'ailleurs aucune amélioration sur les réseaux de la SNCF ou de la RATP dans les jours à venir. À Paris, par exemple, c'est 9 lignes de métro sur 14 qui sont fermées et beaucoup de Parisiens découvrent le vélo. Reportage de Marine de Moissonnière.
Deuxième journée de grève, tôt le matin sur la piste cyclable, on est plus nombreux que d'habitude. Il y a ceux qui filent sur leur vélo et les novices qui soufflent à chaque coup de pédale, s'arrêtent toutes les 5 minutes pour regarder la carte sur leur téléphone. Catherine vient de poser pied à terre, elle fait souvent un bout de chemin à vélo entre son domicile à Neuilly, à l'ouest de Paris, et son travail, Gare du Nord. Aujourd'hui, elle n'a pas eu le choix, elle a pédalé pendant tout le trajet.
Oh là, j'ai mis presque 3 quarts d'heure, mais ça roule bien, il n'y a pas de bus dans les couloirs de bus, c'est formidable. C'est vivifiant. Voilà, donc oui, je continuerai.
Seule difficulté pour Catherine, trouver un Vélib disponible. Bruno, lui, a la solution. Il a embarqué son vélo dans le RER pour faire les derniers kilomètres jusqu'à son travail. Il a donc troqué son costume et sa cravate pour une tenue plus appropriée.
Un bonnet, veste polaire et bien sûr un training sur vêtements.
Et des bonnes baskets.
Oui.
Et des gants.
Ça, oui, ça c'est indispensable. Oui. Donc bien fourré. Comme je fais du vélo le dimanche, j'ai 30 km avec le VTT. Donc pour moi, c'est juste un entraînement.
Lors de la grande grève de 1995, les magasins de vélos avaient été dévalisés. Là, certains vendeurs constatent déjà une hausse de leurs ventes de 25 à 30%.
Voilà, reportage de Marine de la Moissonnière. Les commerçants de leur côté craignent un impact sur leur chiffre d'affaires, c'est naturel, et ont surtout en tête une copie conforme de l'impact des gilets jaunes, c'est la peur. C'était les gilets jaunes de l'année dernière. Pierre Olivier est allé à la rencontre de certains de ces commerçants.
Habituellement, la rue commerçante du Faubourg Saint-Antoine, près de la place de la Bastille, grouille de monde. Ce n'est pas le cas ce vendredi après-midi, comme le déplore cette directrice d'une boutique de vêtements.
Il n'y a personne. Les gens passent, mais vont soit en vélo, soit en trottinette, en voiture. Mais des gens qui se promènent ou qui font du shopping de Noël, non, il n'y en a pas.
En plus de devoir ouvrir leur magasin pour presque aucun client, certains commerçants doivent aussi trouver des solutions pour faire venir leur personnel malgré la grève des transports. Un casse-tête pour ce gérant d'une boutique de thé.
Aujourd'hui, je suis obligé de payer le taxi à tout le monde pour rentrer chez eux. Financièrement, c'est pas hyper intéressant. Ça me rappelle étrangement l'année dernière avec les Gilets jaunes, on a fait un Noël vraiment pourri parce que les gens venaient plus sur Paris. Donc là, ça va être encore le cas si ça continue jusqu'à Noël. L'année dernière, on a failli fermer. Cette année, ce sera peut-être la bonne, quoi.
À 20 jours des fêtes de fin d'année, l'inquiétude d'une grève qui se prolongerait dans le temps est aussi palpable dans ce magasin de lunettes où cet employé a aussi dû composer avec la grève.
Ce matin, du coup, j'ai dû me partir une heure plus tôt que d'habitude.
Et vous êtes inquiète pour le chiffre d'affaires, les ventes, etc.
Ouais, quand même. Parce qu'on a quand même beaucoup moins de monde. Nous, on est dans une période où c'est censé le plus marcher, décembre, janvier, donc on va quand même voir la différence.
Malgré les risques importants qui planent sur leur chiffre d'affaires, presque tous les commerçants rencontrés se disaient pourtant solidaires du mouvement contre la réforme des retraites.
Et c'était donc Pierre-Olivier pour RFI. Du côté du gouvernement, et même si on l'a vu, eh bien le mouvement continue. Il est hors de question de revenir sur les réformes entreprises. On écoute le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.
Pourquoi aurions-nous fait tout cela pour retirer la réforme? Si nous le faisons, c'est parce qu'on a le souci non seulement du court terme et du moyen terme, mais aussi du long terme de la France. Nous avons le souci des générations qui arrivent dans le futur. Tout l'esprit de cette réforme, c'est d'arriver à garantir un bon système de retraite avec de bonnes pensions au même niveau de richesse nationale qu'aujourd'hui, c'est-à-dire 14% de la richesse nationale, ce qui est un point fort de la France pour les plus âgés d'entre nous, et bien de le maintenir pour les générations futures. Ça aurait été beaucoup plus commode pour nous de nous abstenir, comme l'ont fait d'autres avant nous. On pourrait très bien vivre ce quinquennat sans avoir fait une réforme de fond comme celle-ci. Cela dit, si tous les quinquennats résonnent ainsi, à la fin, nos enfants n'auront pas un système de retraite valable. Donc on travaille pour l'avenir de la France et de nos enfants.
Et voilà, donc le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, sur BFM. De son côté, le Premier ministre français, Édouard Philippe, tente même de rassurer les enseignants. On l'écoute.
Je comprends parfaitement les inquiétudes qu'il formule. Il est vrai. Il est exact que l'application absurde des nouvelles règles les pénaliserait. Et c'est d'ailleurs tellement vrai que nous avons dit dès le début, avec le président de la République, que nous nous engagions à ce que les pensions des enseignants de France ne baissent pas. Je veux le dire de façon la plus claire possible. Le système universel, ça n'est pas la baisse des pensions des enseignants. Au contraire, c'est la revalorisation progressive de leur traitement, de façon à ce que leurs pensions, leur pouvoir d'achat, au moment des retraites, ne baisse pas.
Dans le reste de l'actualité, des zones d'ombre sur le nombre de morts dans les rangs des manifestants en Iran. Les États-Unis avancent un chiffre de 1000. L'ONU parle de 208 morts. Alors ça devrait être entre les deux. Toujours est-il que le gouvernement iranien est pointé du doigt sur son traitement des manifestants depuis la mi-novembre. Téhéran a bloqué toute sortie d'informations, mais quelques vidéos ont quand même réussi à sortir vers l'ONU. Ces vidéos montrent les actions violentes des forces de sécurité iraniennes. Jérémy Lange pour RFI.
Au moins 7000 personnes auraient été arrêtées depuis le début du mouvement de contestation. Beaucoup risquent la peine de mort, s'inquiète Michel Bachelet. La haut-commissaire demande à Téhéran de faire toute la lumière sur les violences contre les manifestants. Rupert Colville est le porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme.
Les vidéos que nous avons reçues montrent un usage extrême de la violence de la part de membres des forces de sécurité. On en voit qui tirent sur les manifestants depuis le toit d'un bâtiment officiel dans une ville. Dans une autre, ils tirent depuis un hélicoptère. Nous avons aussi reçu des vidéos montrant les forces de sécurité tirer sur des manifestants de dos alors qu'ils s'enfuyaient et viser d'autres en plein visage ou dans des organes vitaux. Dit autrement, ils tirent pour tuer.
L'un des incidents les plus graves a eu lieu à l'ouest du pays, dans la province du Khouzistan. Des forces de sécurité auraient tiré à l'arme lourde contre des manifestants en fuite et d'autres qui se cachaient. Bilan, au moins 23 morts, peut-être beaucoup plus, dit l'ONU. De son côté, l'ayatollah Ali Khamenei a affirmé que le mouvement de contestation était une conspiration menée par des voyous instrumentalisés par l'étranger.
Et c'était Jérémy Lange pour RFI. En Algérie, dernier vendredi avant les élections présidentielles de jeudi prochain, la rue n'est on ne peut plus mobiliser contre ces élections et appelle à changer le système en appelant à ne pas voter. Les explications et le reportage dans la rue de Leïla Berato.
Deux immenses cortèges se rejoignent place de la Grande Poste. L'un arrive de Bab El Oued, l'autre de Bellecour. Comme beaucoup, Ahmed, 30 ans, est là depuis le 22 février et il ne compte pas s'arrêter.
Je vais continuer à manifester parce que c'est mon droit, en fait. On va continuer à manifester parce que le peuple a sorti dans la rue pendant 9 mois pour changer le système. C'est pas après 9 mois, je vais arrêter de manifester ou je vais aller voter pour que le même système revienne.
Les manifestants brandissent des cartons rouges où il est écrit non au vote. Certains se moquent des candidats qu'ils jugent être partie prenante du système. Hamel s'oppose au scrutin de jeudi prochain.
Comment on veut faire croire au peuple que on est en train de répondre à ces revendications à travers ces élections, alors que ces élections, ces campagnes électorales sont plus des campagnes d'arrestation de toute personne qui est en train de dire non. C'est clair que ces élections ne vont pas passer, c'est clair que les bureaux de vote vont être presque vides. Mais le vendredi, les gens vont être dans la rue et moi je serai dans la rue.
Sur des pancartes, des drapeaux, des t-shirts, on pouvait aussi voir les portraits des manifestants incarcérés. Certains n'ont toujours pas été jugés.
Et c'était un reportage donc de Leïla Berato. On vous fera vivre le résultat de ces élections dans le courant de la semaine dans notre programme. Direction l'Espagne maintenant. Des militants du monde entier se sont réunis à Madrid pour appeler les dirigeants politiques au sommet de la COP25. Et bien les appeler à prendre des mesures concrètes contre le changement climatique. Les représentants des peuples autochtones d'Amérique latine ont largement dirigé la marche à laquelle d'ailleurs assistait la militante climatique Greta Thunberg, l'adolescente de 16 ans qui donne l'exemple en matière de voyage d'ailleurs. Voyage durable. Elle a navigué des États-Unis vers le Portugal avec un voilier donc, et a pris par la suite le train pour assister au sommet. Elle s'adressait au rassemblement. Greta Thunberg donc dit qu'il est vital de continuer à faire des pressions sur les gouvernements pour qu'ils agissent. On l'écoute.
The current world leaders are betraying us and we will not let that happen anymore. We will not let them get away with it anymore. We say enough now. And change is coming, whether you like it or not.
Voilà donc les manifestants à Madrid. Le président américain Donald Trump s'est entretenu avec le roi d'Arabie Saoudite à la suite d'une fusillade dans une base navale américaine en Floride. Un étudiant en aviation saoudien est le suspect de la fusillade qui a fait d'ailleurs 4 morts dont l'assaillant. Le tireur étudiait à la Naval Air Station de Pensacola dans le cadre d'un programme d'entraînement militaire avec les alliés américains. Le président Trump a déclaré que le roi d'Arabie Saoudite donc l'avait appelé pour exprimer ses sympathies, la sympathie aux amis et aux familles qui avaient perdu des êtres chers dans l'attaque injustifiée. On l'écoute.
The king said that the Saudi people are greatly angered by the barbaric actions of the shooter. And that this person in no way, shape, or form represents the feelings of the Saudi people who love the American people so much. So that was just given to me by the King of Saudi Arabia. And I can tell you it's a horrible thing that took place. And we're getting to the bottom of it.
13h et presque 14 minutes, un mot de sport pour finir ce journal. Et à bientôt, la retraite pour l'ancienne numéro 1 mondiale, Caroline Wozniacki. C'est du tennis. Elle a annoncé donc son départ du circuit professionnel. C'était hier à la télévision. Départ effectif après l'Open d'Australie. Retour sur sa carrière avec Eric Mamrut.
Depuis 2010, Caroline Wozniacki est la joueuse qui aura été le plus longtemps sur le trône de numéro 1 mondial derrière l'intouchable Serena Williams. 71 semaines en tout, c'est le 9e total de l'histoire du tennis féminin. Née au Danemark, de parents polonais, la toujours souriante Wozniacki a très vite éclaté au plus haut niveau, atteignant cette place de numéro 1 en 2010. Elle a alors à peine 20 ans. Sa couverture de terrain, sa régularité font des ravages sur le circuit WTA durant 2 ans, mais pas lors des grands rendez-vous. Elle doit en effet attendre fin 2017 pour enfin remporter un trophée majeur, le Masters. C'est le déclic puisqu'elle décroche dans la foulée en Australie son premier et seul tournoi du Grand Chelem, effaçant ainsi 2 finales de l'US Open perdues précédemment. En cette saison 2018, Caroline Wozniacki redevient numéro 1 mondial. Pas pour longtemps, car peu après elle annonce souffrir de polyarthrite rhumatoïde, une maladie auto-immune qui n'a rien à voir avec sa décision d'arrêter le tennis, a-t-elle expliqué hier. Mariée depuis quelques mois, celle qui était aussi connue pour voir sa longue natte blonde se coincer régulièrement dans sa raquette, souhaite désormais sensibiliser cette maladie à travers le monde, mais aussi découvrir d'autres choses et fonder une famille.
Eric Mamrut pour RFI. Coup d'œil météo à travers le pays pour aujourd'hui. À Perth, il fera 25 degrés. Adélaïde, 38. Melbourne, 25. Hobart, 21. Canberra, 32. Sydney, 26. Brisbane, 32. Cairns, 33. Et Darwin, 35 degrés. Un rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Inquiétude au nord de Sydney. Les services de lutte contre le feu ont déclaré un regroupement de certains foyers. On appelle ça un méga-feu. C'est à une heure de route de Sydney. En France, la mobilisation qui continue contre la réforme du système des retraites. On l'a vu dans ce journal. Et en Algérie, dernier vendredi de manifestation avant l'élection présidentielle de jeudi prochain. Voilà, c'est tout pour ce journal. Pour aujourd'hui, courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du programme.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.